Bonjour.
On a l'impression, et probablement que ça se confirme, du moins de ce qu'a relevé notamment le Journal de Montréal, c'est que les Hells Angels et leurs affiliés sont peut-être plus nombreux que jamais.
Mais en fait, ce qu'on voit particulièrement du côté des membres en règle, c'est que les individus qui étaient emprisonnés, qui étaient derrière les barreaux, sont de retour en liberté. Mais effectivement, quand on parle de tout ce qui gravite autour de ces individus-là, des types supporters, effectivement, il y en a un grand nombre. Il y a beaucoup d'individus qui gravitent dans cet entourage-là et qui vont travailler finalement sous les ordres des membres en règle des Hells Angels.
Oui. Et de ces filiales, il semble d'ailleurs qu'on les a multipliées ces dernières années.
On voit beaucoup de nouveaux clubs, des clubs qui ferment, des clubs qui rouvrent. Il y a beaucoup de mouvements. Évidemment, les principaux, là, il y en a que nous, on voit, qui sont toujours là, qui demeurent. Mais effectivement, vous avez raison. Dans différentes régions, on va voir des clubs apparaître, par la suite disparaître, des nouveaux individus. Effectivement, le portrait, le paysage change.
Ouais.
Mais il faut savoir que quand on mène des opérations, comme par exemple le projet d'objection au printemps dernier, où on déstabilise complètement des gros réseaux de distribution, bien là, il y a des individus qui vont se présenter puis qui vont vouloir prendre la relève. Donc,
ah oui.
ça peut expliquer aussi un petit peu les nouveaux visages ou les individus qu'on va voir arriver ou les nouveaux clubs supporters qui vont apparaître.
Oui. Et on le sait, on n'est pas dupe, et vous l'avez mentionné, dès qu'un joueur est arrêté ou retiré, si on veut, de la circulation, de toujours un prendre la relève. Là.
Effectivement, ça a toujours été, ça demeurera. Par contre, la constante aussi, c'est que présentement, les Hells Angels, je l'ai dit souvent précédemment, ont pratiquement le monopole du trafic de stupéfiants. Là, on parle principalement de cocaïne et de drogue de synthèse.
Oui.
Donc, peu importe quels individus vont venir prendre la place, que ce soit des réseaux de distribution qui sont plus les régionaux, plus locaux, ou des plus gros réseaux de distribution, ultimement, dans la chaîne, quelque part, quelqu'un paye la cote. Ça, c'est certain.
Oui. Même si on les voit pas, et je pense que l'exemple de Sherbrooke, l'Estrie, autant ils ont été visibles durant plusieurs années, que là, ils le sont pas mal moins, c'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils contrôlent pas, là.
Non, effectivement, vous avez raison. Ils se sont affichés beaucoup au début de l'année dernière.
Oui.
Par contre, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises de l'avant par la Sûreté du Québec, ses partenaires, justement, pour leur enlever le goût de s'afficher. Donc, c'était la bonne vieille phrase de dire, ben, s'ils veulent s'afficher, on va le faire nous aussi.
Oui.
Et on constate que là, soudainement, ben, ils sont un petit peu moins enclins à s'afficher. Oui, il y a des événements d'envergure, comme le Canada Run, où ils vont le faire.
Oui.
Mais nous, on va continuer à travailler, justement, pour décourager ces individus-là de s'afficher. Parce qu'il faut le dire, il faut comprendre.
Oui.
C'est vraiment que quand ces individus-là portent leur couleur, c'est une démonstration de force. C'est un message qu'ils veulent passer.
Ouais.
Ça constitue un peu de l'intimidation, hein, on va se le dire.
Ouais,
donc,
ouais.
Nous, on veut vraiment continuer à combattre et contrer ça.
Et vous avez été vous-même la cible d'une certaine forme d'intimidation.
Effectivement, vous avez raison. Et comme je l'ai dit, je compte continuer à faire mon travail.
Ouais.
Et on ne cédera pas à l'intimidation.
Ouais.
Que ce soit des policiers, que ce soit d'autres acteurs du système judiciaire,
ouais.
Que ce soit des tenanciers de bord, ben on ne tolérera pas ça.
Inspecteur Lapointe, dites-moi, vous êtes capable de quantifier les pertes des Hells et de leurs affiliés lorsque vous faites un bilan de cette pression policière? Vous êtes capable de dire que on leur a fait perdre à peu près 100 millions de dollars.
Oui, ça, ce sont les chiffres qui sont avancés par le journal. Je vous dirais que nous, on n'a pas tendance à associer un montant d'argent à des saisies de stupéfiants parce qu'il y a beaucoup de variables qui peuvent venir influer. La région, le prix du marché, il y a plein de choses qui ont des facteurs. Nous, on va davantage se concentrer sur les quantités qu'on saisit.
Mmh.
Quand on parle de cocaïne, par exemple, ben, c'est 120 kilos qui ont été saisis dans la dernière année. Ça représente quand même une quantité impressionnante. Parce que la particularité de la cocaïne, vous le savez, c'est quelque chose qui doit être importé.
Oui.
Donc, c'est plus complexe comparé, par exemple, à son parle au cannabis, donc qui peut être poussé ici, mais la cocaïne, quand on saisit de grandes quantités, ça peut avoir un impact direct sur la disponibilité et le prix aussi sur le marché noir.
Ouais. Et en terminant, parlant de cannabis, parce que bon, les autorités politiques, dans leur grande volonté de légaliser, ils disaient qu'on va retirer ça du crime organisé. Mais on a vu que le crime organisé est capable de se virer de bord et d'aller voir ailleurs.
Ah, effectivement, vous avez raison. Je reviens encore à ça. Quand on parle de crime organisé, là, les dirigeants de ça au Québec, c'est principalement les Hells Angels. Et nous, s'attend à démontrer qu'ils vont davantage faire dans le trafic de cocaïne, mm-hmm. de drogue de synthèse, où ils peuvent en quelque sorte contrôler l'approvisionnement. C'est ouais. pas nécessairement le cas avec le cannabis, mais vous avez raison. Ça va être intéressant de voir. C'est difficile de prédire l'impact réel sur le crime organisé de la légalisation, ouais. mais définitivement, de notre côté, on va suivre ça de près.
Guy Lapointe, inspecteur à la Sûreté du Québec, merci d'avoir accepté mon invitation.
Ça fait plaisir. Au revoir.